Ce soir, nous accueillons M. Gilbert Autois, né en 1946 en Belgique. Il est actuellement professeur de philosophie à l'Université libre de Bruxelles et co-directeur du CRIB, centre de recherche interdisciplinaire en bioéthique. Il est spécialiste de la pensée philosophique contemporaine, plus spécialement de l'inflation du langage dans la philosophie du XXe siècle. Il est spécialiste également des questions qui nous concernent ce soir, à savoir la technoscience, les aspects éthiques de la recherche et du développement technoscientifique et de la bioéthique. Membre de plusieurs sociétés scientifiques et de comités d'éthique au plan national, européen et international, Gilbert Autois a entre autres publié les ouvrages suivants: Le signe et la technique chez Aubier en 1984, Le paradigme bioéthique aux éditions Debecq-Herpy en 1991, Du sens commun à la société de communication chez Vrin en 1991, Entre symboles et technoscience chez Champvallon en 1996, et je citerai un dernier ouvrage, Essai de philosophie bioéthique et biopolitique chez Vrin en 1999. Je rappelle une dernière chose, la conférence de ce soir se situe dans le module d'épistémologie, qui fait suite au module consacré à la vie et par lequel cette université de tous les savoirs a commencé. Module d'épistémologie, ça veut dire module de réflexion sur les méthodes scientifiques, et que nous avons entamé vendredi dernier avec la conférence de Pierre Cartier sur mathématiques et réalité. Donc je rappelle les règles du jeu, 50 minutes de conférence, 20 minutes de questions. Je vous laisse la parole, monsieur Autois.
Merci beaucoup pour cette présentation très aimable et très substantielle. Je voudrais aussi remercier le professeur Michaud pour m'avoir associé à cette entreprise impressionnante et symbolique qui s'étend sur toute une année. Mon propos sera également assez panoramique, puisqu'il tente de mettre en perspective une série d'attitudes philosophiques à l'égard de la technique et plus généralement à l'égard de la technoscience. Dans un ouvrage qui remonte aux années 1950, le philosophe français Pierre Ducassé, qui était aussi historien des techniques et directeur de l'Institut pour l'histoire des techniques, soulignait déjà à la fois l'urgence et la difficulté pour la philosophie de penser la technique. En même temps, il décrivait trois attitudes typique, mais selon lui inadéquate: l'antitechnicisme, la technophilie et l'indifférence. Il s'étendait principalement sur la première, comme relevant d'une très vieille tradition de méfiance pour l'artifice et de confiance en l'ordre naturel, fort fréquentée par les penseurs historiques et par les penseurs contemporains. Il jugeait la technophilie par définition hors de la philosophie, ce sont ses propres paroles, puisqu'elle postule qu'il y a une solution technique à tout problème et adopte ainsi une position philosophiquement suicidaire, malheureusement assez fréquentée selon lui par des philosophes exprimant une attitude positive à l'égard de la technique. Quant à l'indifférence, elle se fonderait sur l'illusion de la prétendue neutralité de la technique, celle des moyens, et elle serait sans intérêt pour la philosophie soucieuse de l'ordre des fins. L'indifférence déroberait ainsi a priori tout débat sur la question de la technique jugée insignifiante. Dans sa présentation critique, historique et actuelle de la philosophie de la technique, Jean-Yves Goffi commence par deux sections intitulées « La technophobie intemporelle » et la technophobie contemporaine, où il remarque, je le cite, « L'énumération des auteurs qui ont émargé à la longue liste de la technophobie contemporaine est pratiquement infinie. » C'est dès la mi-temps du XXe siècle que se sont exprimés deux penseurs qui auront une influence décisive sur la philosophie de la technique, Jacques Ellul et Martin Heidegger. Le premier, Ellul, allait devenir une sorte d'archétype d'une position radicalement antitechniciste et technophobe. Cette place occupée par Ellul dans la philosophie de la technique est encore plus nette dans la littérature américaine. L'un des aspects d'Ellul L'un des aspects qui a été le plus accusé dans ses descriptions critiques de la société technicienne, c'est ce qu'il appelle lui-même l'autonomie du développement technique. Et voici ce qu'il écrivait en 1954 déjà dans « La technique ou l'enjeu du siècle ». Je le cite. « La technique est autonome. Elle l'est d'abord à l'égard de l'économie et de la politique. La technique conditionne et provoque les changements sociaux, politiques et économiques. Elle est le moteur de tout le reste, malgré les apparences, malgré l'orgueil de l'homme qui prétend que ses théories philosophiques ont encore une puissance déterminante et que ses régimes politiques sont décisifs dans l'évolution. La technique est devenue une réalité en soi qui se suffit à elle-même. L'autonomie se manifeste à l'égard de la morale et des valeurs spirituelles. La morale juge de problèmes moraux. Quant aux problèmes techniques, elle n'a rien à y faire. L'homme participe de moins en moins activement à la création technique qui devient une sorte de fatalité par combinaison automatique d'éléments antérieurs. Alors, l'affirmation de l'autonomie de la technique comporte toute une série de thèses auxquelles, dans cet extrait, il est fait allusion. Premièrement, les inventions et découvertes se feraient mécaniquement et nécessairement, c'est-à-dire que dès qu'un état de développement technoscientifique est atteint, ce qui est techniquement possible sera réalisé. Ce mouvement d'auto-accroissement est illimité et aveugle, c'est-à-dire sans but ni sens, en dehors de lui-même. Deuxièmement, les humains n'ont plus qu'un rôle de vecteur ou de moyen. Ils appliquent ce que certains appellent, et lui-même d'ailleurs, l'impératif technicien qui s'énonce « il faut réaliser tout ce qu'il est possible de réaliser ». Troisièmement, ce sont les exigences systémiques de la technique qui façonnent la société en ses divers aspects, économie, politique, idéologie, morale, art. Quatrièmement, la conception courante qui considère la technique comme un ensemble d'outils au service des humains et que l'on appelle l'instrumentalisme anthropocentrique est un mythe. Cinquièmement, la technique, ou plus exactement les technosciences, la technique et la technoscience sont universels, englobants, transversaux par rapport aux cultures. Ceci serait vrai en fait, à savoir que la technique s'étend à toute la planète concrètement. Cela serait vrai aussi en droit, les lois scientifiques que la technique applique sont universelles. La logique technoscientifique qui invente pour tout problème la solution la plus efficace s'impose donc partout identique, malgré la diversité des cultures et traditions qu'elle plie à son service ou supprime. Cette logique est, selon Ellul, totalitaire, car elle ne laisse rien en dehors d'elle. Sixièmement, la technique et la science ne peuvent constituer une authentique culture, car elles sont universelles et présentent leurs solutions comme nécessaires, sans laisser de place à une liberté de choix entre les possibles. Une véritable culture, par contre, est, selon Ellul, toujours symbolique et traditionnelle, enracinée dans une histoire et un lieu particulier. Autrement dit, la division contemporaine ne passerait pas entre deux cultures, car il n'y aurait pas de culture technoscientifique possible. Elle opposerait plutôt les cultures symboliques traditionnelles et ce que Michel Henry, notamment, appelle la barbarie. Enfin, septièmement, la technique serait anti-humaniste, voire inhumaine. La seule issue est dans le retour à la tradition, à la civilisation du symbole et du verbe, nommément chez Ellul, plutôt selon Ellul, la culture chrétienne. Une culture technicienne est essentiellement impossible, soulignait encore Ellul en 1987. Cette expression constitue, dit-il, un abus de sens et un non-sens. Plusieurs commentateurs, partageant une bonne part de la technophobie d'Ellul, ont cependant jugé la thèse de l'autonomie de la technique caricaturale et source de malentendus qui conduisent à dissimuler plus qu'à éclairer les aspects légitimes de la critique d'Ellul. Ainsi, Daniel Cérézuel s'efforce de prendre ses distances par rapport à la représentation mythique d'une technique hypostasiée, personnalisée et diabolisée, cause de tous les maux affectant l'humanité contemporaine. Selon lui, la thèse de l'autonomie doit être comprise dans un sens social et non métaphysique. elle serait surtout une critique de la conception traditionnelle présentant trop bénignement la technique contemporaine comme neutre et passivement soumise à des finalités humaines. La complexité, l'inertie systémique, le dynamisme d'un développement inanticipable et la combinaison d'un nombre immensément grand d'actes techniques présentant certes séparément une finalité rationnelle, produisent ensemble des conséquences et des effets cumulés, imprévisibles et incontrôlables, éventuellement opposés aux intentions et calculs des individus et des collectifs qui décident des recherches technoscientifiques et des applications techniques. Rapportée à un cadre philosophique plus général, la critique de la thèse de l'autonomie de la technoscience a été développée principalement à partir de deux courants philosophiques importants, la phénoménologie et l'école de Francfort. Du point de vue de la phénoménologie, cette thèse exprime une dangereuse illusion, le fourvoiement d'une partie considérable de la conscience occidentale qui nie la subjectivité et l'intersubjectivité de la vie et de l'esprit, source de tout rapport au monde, y compris le rapport technoscientifique qui se donne pour objectif et autonome. Michel Henry a récemment réactualisé cette critique avec sa phénoménologie de la vie, qui décrit la civilisation technoscientifique comme une barbarie issue d'une tentative de la vie ou de la subjectivité de se nier elle-même en s'objectivant afin de ne plus éprouver sa souffrance et l'angoisse de sa condition. Une vie, écrit-il, qui se nie elle-même, l'autonégation de la vie, tel est l'événement crucial qui détermine la culture moderne en tant que culture scientifique. Fin de citation. L'autonomisation de la technique qui tente à exclure absolument les sujets humains serait donc l'ultime avatar d'un processus remontant au moins à l'institution de la science moderne, mathématique et technicienne, qui a commencé par mettre entre parenthèses la subjectivité. Du point de vue phénoménologique, la volonté d'indépendance par rapport à la subjectivité ou à l'intersubjectivité est vouée à l'échec, et croire à une telle autonomie de la science et de la technique est une erreur. Cette erreur et l'impasse où elle entraîne sont appauvrissantes, voire mortifères pour l'humanité. Dans la perspective de la philosophie politique et sociale, inspirée par l'école de Francfort, Horkheimer, Marcus, Habermas notamment, ainsi que dans celle du courant sociologique du constructivisme social des sciences et des techniques, qui s'est surtout développé aux États-Unis à partir des années 80, la thèse de l'autonomie de la technoscience est à dénoncer davantage comme une mystification entretenue par certaines fractions de la société qui y trouvent leur intérêt, plutôt que comme une malheureuse illusion associée au destin de la conscience occidentale. Le développement technoscientifique est toujours voulu et planifié par des hommes politiquement, économiquement et juridiquement. L'idéologie de l'autonomie de ce développement, souvent associée au slogan « on n'arrête pas le progrès », joue en faveur d'une minorité sociale, quelquefois identifiée comme technocapitaliste, et l'innocente des conséquences négatives éventuelles du progrès technoscientifique, jugée inévitable aux yeux du reste de la société. Le véritable enjeu consiste dès lors à ouvrir les yeux à tous ceux qui subissent le mouvement sans pouvoir rien décider ni faire valoir leurs propres intérêts. Il faut que le développement technoscientifique soit réapproprié par la société tout entière et que les choix qui l'orientent soient faits par tous les intéressés, également informés au terme d'une discussion libre et ouverte. Tous les intéressés, du point de vue de Habermas par exemple, cela signifie à la limite toute l'humanité. Les choix doivent être faits à la lumière de la raison pratique qui s'exprime au fil de la discussion argumentée, universelle et libre, conformément à l'éthique de la discussion. Il s'agit bien entendu d'un idéal irréalisable hic et nunc, mais cet idéal devrait inspirer déjà et toujours nos discours et nos prises de position. Il n'y a donc aucune nécessité, fatalité ou automaticité du développement technoscientifique, il y a seulement des décisions collectives, plus ou moins conscientes, rationnelles et libres de contraintes. La philosophie sociale et politique inspirée par Apple Habermas postule que ces décisions peuvent et doivent devenir de plus en plus rationnelle, c'est-à-dire universelle et respectueuse des intérêts de tous les humains. Ce rationalisme universaliste est caractéristique de la modernité dite humaniste, qu'une partie importante de la philosophie sociale et politique contemporaine prolonge. Je cite Habermas, « Face au système devenu autonome que forment ensemble la recherche, la technique, l'économie et l'administration, il semble que soit irrémédiablement dépassée la question qu'inspire l'exigence posée par la culture néo-humaniste d'une souveraineté à exercer par la société sur ses conditions d'existence technique, autrement dit la question de leur intégration au sein de la pratique du monde vécu. Il est évident que cette thèse d'un développement autonome du progrès technique est fausse. Une telle affirmation ne sert en définitive qu'à masquer des intérêts naturels et incontrôlés de pures et simples décisions à caractère pré-scientifique. » Fin de citation. Mais la critique de la thèse de l'autonomie de la technoscience n'implique pas nécessairement une telle position universaliste ou rationaliste. Des philosophes postmodernes ou des philosophies communautariennes estiment également que les orientations des développements technoscientifiques procèdent de décisions collectives. Elles considèrent toutefois que des communautés différentes peuvent faire des choix technoscientifiques et sociétaux divers, que les choix sont contextuels, toujours seulement plus ou moins étendus, mais jamais universels. L'impératif rationaliste qui enjoint de viser par principe l'universel ne serait lui-même que l'idéologie propre à une certaine tradition occidentale, donc à une certaine communauté qui n'a cessé d'étendre son emprise sur l'humanité durant les temps modernes, avec l'aide tout particulièrement des savoirs, pouvoirs, technoscientifiques. Toutes ces philosophies sociales et politiques, modernes et postmodernes, ont été expressément dénoncées par Jacques Ellul, qui n'y voit que des illustrations idéologiques diverses, subtiles, de la rationalité technicienne. Les conceptions de Heidegger, bien que philosophiquement beaucoup plus profondes et élaborées, comportent une réaction à l'égard de la technoscience contemporaine qui n'est pas sans analogie avec celle de Jacques Ellul. Les essais et conférences qui contiennent le texte célèbre intitulé « La question de la technique » furent publiés la même année, 1954, que « La technique ou l'enjeu du siècle » de Jacques Ellul. Voici des extraits qui disent l'essentiel à propos du sens profond de la technique, primitive et contemporaine. Je cite donc Heidegger. « La physis, le nom grec pour nature, par laquelle la chose s'ouvre d'elle-même, est aussi une production, elle est poiesis, créativité, au sens le plus élevé. Ce qui est produit par l'artisan ou l'artiste, par exemple la coupe d'argent, n'a pas en soi la possibilité de s'ouvrir, mais il l'a dans l'artisan ou dans l'artiste. Ainsi, la technique n'est pas seulement un moyen, elle est un mode du dévoilement. Qu'est-ce que la technique moderne ? Elle est aussi un dévoilement. Le dévoilement, cependant, qui régit la technique moderne, est une provocation par laquelle la nature est mise en demeure de livrer une énergie qui puisse, comme telle, être extraite et accumulée. Cet appel provoquant qui rassemble l'homme autour de la tâche de commettre comme fond ce qui se dévoile, nous l'appelons en allemand « Gestell », qui a été traduit par « arraisonnement ». Le règne du Gestell, de l'arraisonnement, nous menace de l'éventualité qu'à l'homme puisse être refusé de revenir à un dévoilement plus originel et d'entendre ainsi l'appel d'une vérité plus initiale. Aussi, là où domine le Gestell, y a-t-il danger au sens le plus élevé, mais là où il y a danger, là aussi croit ce qui sauve. » Fin de citation. Heidegger interprète la technique ou la technoscience contemporaine comme une étape extrême de l'histoire de l'être. Celle-ci est, dit d'une manière très simple, l'histoire de la manière dont en Occident, depuis 2500 ans, l'homme a répondu à la question philosophique la plus essentielle : qu'est-ce qui est ? Quel est le sens de l'être ? Or, une première réponse, la plus originelle et la plus authentique qui nous soit parvenue depuis l'aube de la pensée philosophique grecque, est « l'être est physis ». La physis est ce qui croit, s'épanouit et se dévoile de soi-même. Être comme nature, la physis comprend tout, l'homme inclus. Mais elle a aussi, d'une certaine manière, besoin de l'homme, car tout ne s'épanouit et ne se déploie pas de soi-même. La techné est ce savoir et faire propre à l'homme qui doit aider à l'épanouissement et au dévoilement de ce qui, au sein de la physis, requiert l'assistance de l'homme. Cette assistance, entre guillemets technique, doit être respectueuse de cela qu'elle aide à venir dans l'éclaircie de l'être. Originellement, c'est donc la physis qui accorde à l'homme un rôle de technites, de technicien, si l'on veut. Mais au fil de l'histoire occidentale, le sens originel de la technique s'est progressivement complètement perdu. La technoscience contemporaine n'est plus que la concrétisation opératoire du projet de domination et de maîtrise absolue et totalitaire, caractéristique déjà de la métaphysique. Celle-ci préfigure en effet dans l'histoire occidentale, sous la forme spéculative et symbolique du savoir théorique absolu, la technoscience contemporaine. Et au terme de cette histoire, qu'avons-nous ? Une physis, la nature, radicalement objectivée et opérationnalisée, réduite à un fond d'énergie et de matière exploitable sans aucune limite. Une conception de la technique comme un ensemble de moyens asservis au dessein humain de manipulation et d'exploitation universelle et qui s'applique aussi à l'homme en tant qu'il fait partie de la nature objectivée et opérée. Telle est la conception anthropocentriste et instrumentaliste de la technique, associée à l'idéologie de l'humanisme moderne et au nihilisme contemporain, qui présente l'homme comme un sujet radicalement libre, mais ne visant plus que la puissance et l'accroissement des moyens de faire. Cette réduction du rapport de l'homme à ce qui est, à une relation de pure manipulation arbitraire, est l'effet de l'oubli de l'être et de son sens, qui va de pair avec le retrait de l'être. En vérité, l'homme continue d'appartenir à l'être, mais il ne le sait plus. Et il subit, autant qu'il agit, cette histoire qui a conduit de la techné originelle à la technoscience contemporaine. Heidegger désigne l'essence de cette dernière, ainsi que nous l'avons vu, par le mot « Gestell ». Le « Gestell » évoque l'idée de structure, de système qui englobe, domine et mobilise tout en vue de son fonctionnement et de son extension auto-référée, l'homme y compris. En ce sens, il est possible de parler d'une autonomie de la technique chez Heidegger. La technique n'est qu'apparemment un instrument au service de l'homme. Elle asservit l'homme autant que la nature. Elle commet l'homme à l'exploitation illimitée de la nature et de lui-même. Mais cette autonomie est en même temps une illusion. La technoscience reste dépendante de l'être, ou plus exactement, elle est la forme extrêmement aliénée et aliénante prise aujourd'hui par le rapport de l'homme à l'être. Elle est la manière radicalement inauthentique dont l'homme répond désormais à la question de l'être et de son sens, en l'occultant tout à fait et en substituant à sa méditation remémorante l'activisme manipulateur, calculateur, dominateur, indifférent à toute donation du sens. Quelle est l'issue à cette impasse historique ? Le salut ne dépend pas vraiment de l'homme lui-même, qui peut, au mieux, se préparer à la venue ou au retour du sens, du Dieu, dit quelquefois Heidegger. La solution n'est évidemment pas à chercher du côté de la technique. L'essence de celle-ci ne se dévoile d'ailleurs pas dans l'étude des objets et des systèmes techniques, mais dans la méditation du langage, de mots tels que techné, physis, poiesis, aletheia. Il faut apprendre à réentendre le sens originel oublié de ces mots. Le salut est du côté d'un nouveau pensé-parlé qui renoue avec le respect du langage traditionnel et avec son écoute herméneutique. Le danger culminant réside d'ailleurs pour Heidegger comme pour Ellul dans la saisie technoscientifique ou technologique du langage lui-même à travers le développement des langues artificielles, informatiques et cybernétiques, totalement indifférentes à leur origine traditionnelle et naturelle, car le langage est en définitive, pour Heidegger, l'être de l'homme et la demeure de l'être. En conclusion, peut-on dire que Heidegger est antitechniciste et technophobe ? La réponse est affirmative s'il s'agit de la technoscience contemporaine, qui exprimerait le comble du fourvoiement de l'homme et de son abandon de et par ce qui a sens et valeur, l'être, la physis, Dieu. Comme pour Ellul et comme pour tant d'autres penseurs, le dernier et le premier mot doit revenir au mot, au langage, au verbe, au symbole, car l'homme est l'étang du langage, l'animal symbolique qui ne peut connaître de salut que dans l'assomption symbolique de sa condition, non dans la refonte opératoire indéfinie de celle-ci. Mais à la différence d'Ellul, ce salut symbolique demeure chez Heidegger indéterminé. Il ne privilégie pas une tradition particulière, telle la religion chrétienne, car les chemins du langage, qui sont aussi ceux de l'être et du sens, sont innombrables et d'innombrables chemins restent à découvrir. Toujours au cours de la décennie des années 1950, le philosophe français Gilbert Simondon présente ses thèses sur l'individuation et en tire un premier ouvrage du mode d'existence des objets techniques qui deviendra un classique de la philosophie de la technique. Il illustre une position que l'on peut qualifier d'humaniste et de technophile. Simondon s'efforce de rendre compte de la technophobie et de l'antitechnicisme en termes de culture déficiente et anachronique, qui ne sont pas sans analogie avec le diagnostic posé par Peter Snow dans sa célèbre conférence sur les deux cultures, littéraire et scientifique, en 1959. La culture traditionnelle, à dominante littéraire qui s'enseigne dans les écoles et qui continue de former les élites, n'est plus appropriée pour l'assimilation et la régulation sociale de l'univers technoscientifique contemporain. Elle inclut des représentations de la technique et du rapport de l'homme au monde naturel et technique qui relèvent d'un état des techniques et des sciences tout à fait dépassé, comme par exemple la représentation de la technique sous la forme d'une gigantesque boîte à outils, alors que la technique s'est faite de plus en plus réticulaire, systémique, englobante. L'incapacité de la culture encore dominante à intégrer symboliquement la technoscience contemporaine engendre une série d'effets pernicieux, résistance, dysfonctionnement, sentiment d'aliénation et d'angoisse dont la technophobie constitue une expression. Cette incapacité entraîne une sorte de dissociation ou schizophrénie sociale entre ceux qui savent et tous les autres technoscientifiquement ignorants. La dissociation conduit, d'une part, à la prolifération chaotique de techniques qu'aucune culture vraiment commune ne vient plus réguler et qui donne l'impression d'un développement sauvage et autonome des techniques. Elle suscite, d'autre part, un repli réactionnaire ou conservateur de la culture traditionnelle qui s'autonomise aussi, à sa manière, dans la mesure où elle n'est plus en prise sur la réalité technoscientifique, techno-économique et technosociale qu'elle ignore, mécomprend ou rejette. D'un côté, la technoscience paraît se développer et se développe en effet hors culture. De l'autre, la culture régnante se répète contre ou hors de la réalité contemporaine. Pour Simondon, cette situation n'a rien d'une fatalité. La technique ou la technoscience n'est pas en soi aculturelle ou anticulturelle, symboliquement inassimilable. Elle est seulement inassimilable par une culture obsolète. Je cite Simondon pour illustrer ce propos. La culture est ce par quoi l'homme règle sa relation au monde et sa relation à lui-même. Or, si la culture n'incorporait pas la technologie, elle comporterait une zone obscure. La culture doit être contemporaine des techniques, se reformer et reprendre son contenu d'étape en étape. Si la culture est seulement traditionnelle, elle est fausse. parce qu'elle comporte implicitement et spontanément une représentation régulatrice des techniques d'une certaine époque. Et elle apporte faussement cette représentation régulatrice dans un monde auquel elle ne peut s'appliquer. Privée de l'apport de la régulation culturelle passant par l'intermédiaire d'une représentation adéquate des réalités techniques, le couplage de l'homme et du monde se développe à l'état isolé, de manière non intégrée, anomique. Par contre-coup, ce développement sans régulation des réalités techniques enveloppant l'homme justifie tout au moins de manière apparente la défiance implicite de la culture envers les techniques, une culture auto-justificative pendant que la culture générale devient inhibitrice mais non régulatrice de toutes les techniques. Et voici un autre extrait peut-être plus explicite, mais d'un texte moins connu. Mais lorsque les techniques se modifient, certains phénomènes humains constituant une culture se modifient moins vite et moins radicalement que les objets techniques, les institutions juridiques, le langage, les coutumes, les rites religieux. Ces contenus culturels à évolution lente, qui étaient jadis en relation de causalité réciproque dans une totalité organique constituant la culture, avec les formes techniques qui leur étaient adéquates, se trouvent maintenant des réalités symboles partiellement en porte-à-faux. Alors, se constitue un pseudo-organisme des formes de culture à évolution lente, ne pouvant être équilibré que par des formes de techniques qui n'existent plus, et un bloc à faible inertie des techniques nouvelles paraissant faussement libéré de toute signification culturelle. Ainsi s'explique l'opposition stéréotypée qui intervient entre la culture et les techniques. Cependant, au nom même de cette recherche des voies pour reconstituer l'unité de la culture que nous voudrions mener à bien, écrit Simondon, il convient de se demander si cette mesure d'ostracisme est prise à bon droit. Est-il bien certain que la réalité technique soit d'une structure opposée à celle des plus authentiques contenus de la culture ? N'aurions-nous pas affaire à un mythe défensif, la catharsis facile que l'on retire des objets techniques anathématisés ne peut reconstruire l'unité de la culture dissociée. Le remède que propose Simondon à la crise de la civilisation contemporaine est donc tout à fait différent de celui suggéré par Ellul ou Heidegger, qui font science en direction de la tradition comme seule source de salut. Ce remède, pour Simondon, tient dans le développement d'une culture qui soit en phase avec le monde contemporain et qui inclut une représentation appropriée de la technique et de la science. Un travail d'information, d'éducation et d'acculturation qui n'est pas sans analogie avec celui qui fut réalisé par les Lumières et l'Encyclopédie au XVIIIe siècle. Une telle culture aurait une portée universelle car elle intégrerait des lois de la science et de la technologie qui sont universelles, indépendantes des croyances et des idéologies particulières des diverses communautés. Si Simondon est prêt à reconnaître une autonomie aux technosciences et spécialement à l'invention et au perfectionnement des objets techniques, cette autonomie réside dans la reconnaissance de l'existence objective de contraintes et de normes physiques et technophysiques indépendantes de la subjectivité humaine qui font que n'importe quel agencement est loin d'être viable et qu'il y a pour une finalité et dans un environnement donné des agencements technophysiques très inégalement fonctionnels et efficaces. En historien des techniques, Simondon a abondamment illustré cette normativité technophysique à propos d'objets tels que les lampes ou les moteurs qui évoluent dans le sens de ce qu'il appelle une concrétude croissante, c'est-à-dire dans le sens d'une intégration fonctionnelle interne des composantes à l'objet total et externe de l'objet par rapport au milieu, toujours accru. Simondon a confiance dans le progrès technique qu'il juge émancipateur, non seulement par rapport aux servitudes de la nature et de la matière, mais aussi par rapport aux asservissements politiques et idéologiques des communautés particulières. Il lui arrive d'ailleurs de souligner que la première pensée libre fut celle des premiers philosophes, physiciens, ingénieurs, des individus capables d'affronter l'objectivité physico-technique qui arrache à la particularité de la communauté politique. Thalès, Anaximandre, Anaximène, les premiers philosophes, sont, écrit Simondon, avant tout des techniciens. On ne doit pas oublier que la première apparition d'une pensée individuelle libre et d'une réflexion désintéressée est le fait de techniciens, c'est-à-dire d'hommes qui ont su se dégager de la communauté par un dialogue direct avec le monde. La véritable activité technique est aujourd'hui dans le domaine de la recherche scientifique, qui, parce qu'elle est recherche, est orientée vers des objets ou des propriétés d'objets encore inconnus. Les individus libres sont ceux qui effectuent la recherche et instituent par là une relation avec l'objet non social. Les sophistes ont compris et exprimé cette valeur de l'effort technique qui libère l'homme de la communauté et fait de lui un véritable individu. L'homme n'est pas seulement un zoon politikon, il est aussi un zoon technikon. Et la communication de la pensée technique est empreinte du caractère d'universalité. L'adoption ou le refus d'un objet technique par une société ne signifie rien pour ou contre la validité de cet objet. La normativité technique est intrinsèque et absolue. On peut même remarquer que c'est par la technique que la pénétration d'une normativité nouvelle dans une communauté fermée est rendue possible. Fin de citation. Cette position technophile et humaniste qui souligne l'émancipation et l'universalité est indéniablement proche de l'idéal de la modernité. Simondon ne s'est guère saisi à propos de l'articulation entre les techniques et les sociétés, des occasions d'interprétation postmoderne contenues dans certains aspects de son œuvre. Cette œuvre insiste en effet aussi sur la diversité des individuations, sur l'importance des possibles, des virtualités, des singularités, sur l'indétermination du devenir ou des devenirs. Simondon cultive la notion d'une coévolution de l'homme et de la technique, mais il ne la développe pas au-delà de ce que permet de penser l'humanisme moderne. Ainsi reste-t-il un penseur traditionnel, ce qui, en l'occurrence, inclut la modernité humaniste, dans la mesure où il affirme que les techniques ont pour rôle de modifier, dominer, reconstruire le milieu physique, c'est-à-dire l'environnement extra-humain, mais pas l'homme même. Celui-ci n'est pas modifiable, perfectible, si ce n'est au plan symbolique ou culturel. C'est via une nouvelle culture ou une évolution de la culture, incorporant symboliquement un milieu transformé par de nouvelles techniques, que les humains eux-mêmes peuvent et doivent évoluer. Le passage suivant, extrait du mode d'existence des objets techniques, est clair à cet égard. Voici ce qu'écrit Simondon. Autrement dit, ce n'est pas la réalité humaine, et en particulier ce qui de la réalité humaine peut être modifié, à savoir la culture, qui doit être incorporée aux techniques comme une matière sur laquelle le travail est possible. C'est la culture qui doit incorporer les ensembles techniques en connaissant leur nature pour pouvoir régler la vie humaine d'après ces ensembles techniques. La culture doit rester au-dessus de toute technique, mais elle doit incorporer à son contenu la connaissance et l'intuition des schèmes véritables des techniques. Simondon demeure aussi, en ce sens, un homme des techniques et des sciences de son temps. Une époque antérieure au prodigieux développement des technosciences de la communication et de l'information, et surtout des biotechnologies et des technosciences biomédicales. Ces développements et les possibles qu'ils comportent ont de plus en plus mis à l'ordre du jour la question de l'objectivation et de la saisie opératoire technoscientifique de ce que l'on pourrait appeler le milieu physique le plus proche de l'individu et de l'homme en général, à savoir le corps humain, y compris le cerveau et le génome. L'éventualité d'une telle saisie et des modifications technophysiques qu'elle laisse entrevoir n'est pas, comme beaucoup le prétendent, nécessairement réductrice de l'humanité. Cette éventualité, en effet, ne répond pas à la question « qu'est-ce que l'homme ?». Elle l'ouvre, tout au contraire, vertigineusement, et la renvoie à une liberté créatrice et exploratrice, symbolique, infiniment multipliée, et qui se déploierait simultanément dans l'invention symbolique et technophysique des futurs de l'humanité. Elle comporte évidemment aussi des risques d'aliénation, de domination et de contrôle technophysique du groupe humain suivant des modalités autres et peut-être dangereusement plus efficaces que les totalitarismes idéologiques. Par rapport au débat qui a agité les intellectuels allemands puis français au cours des derniers mois du XXe siècle, opposant Peter Sloterdijk, qui ose mettre en question l'humanisme symboliste, et Jürgen Habermas, dénonçant la folie scandaleuse d'une anthropotechnologie, la position de Simondon est indéniablement plus proche de Habermas. Bien qu'il vise la réconciliation, Simondon continue de penser en fonction de couples plus ou moins traditionnels, distinguant la technique et la culture, la matière et l'esprit, le physique et le psychique. Il place les techniques matérielles simultanément dans et hors des cultures, parce qu'il continue d'identifier celles-ci au symbolique, au langage, dont il ne reconnaît pas sérieusement la nature matérielle et technique subtile, le caractère inventé et artificiel. Dans la mesure où il adhère au rationalisme moderne, il s'arrête devant la possibilité d'une multiplication post-moderne d'humanités technosymboliques, développant diversement les technosciences en association avec une créativité symbolique également diverse. C'est cette dernière tendance que nous allons aborder brièvement pour terminer, avec un philosophe médecin américain bien connu dans les milieux bioéthiques, Hugo Engelhardt, qui illustre une position que l'on peut qualifier de technophile évolutionniste. Et voici d'emblée un extrait de l'ouvrage majeur d'Engelhardt, Foundations of Bioethics, je le cite. Nous ne nous percevons plus nous-mêmes comme au centre des choses, mais comme vivant sur une obscure planète en orbite autour d'une étoile insignifiante, membre d'une des innombrables galaxies. Notre nature se révèle un produit du hasard. Depuis que la médecine et les sciences biomédicales deviennent toujours davantage des moyens pour remodeler, refaçonner la nature humaine, nous sommes concernés non seulement par ce que les hommes et les femmes doivent faire, mais par ce qu'ils doivent devenir, par les manières dont nous pourrions nous remodeler nous-mêmes. Semblables choix comprennent des valeurs morales, esthétiques et autres, ainsi que des vues sur ce qui est naturel et non naturel. Il y a de la distance entre nous en tant que personne et nous en tant qu'humains. Cette distance est le fossé entre un être qui réfléchit et manipule et l'objet de sa réflexion et de sa manipulation. À partir de notre perspective, en tant que personne ayant des interprétations, des visions et des espoirs particuliers, nous pouvons décider si notre place est la meilleure dans le cosmos. Si nous la trouvons insatisfaisante, nous pouvons faire des plans pour en changer. En tant que personne, nous pouvons faire de nos corps des objets de notre jugement et de notre manipulation. À l'avenir, notre capacité de contraindre et de manipuler la nature humaine conformément à des buts posés par des personnes croîtra. Si l'on songe au long terme, des changements majeurs sont inévitables dès lors que nous demeurerons une espèce libre et progressant technologiquement. À long terme, il n'y a pas de raison de penser qu'une seule espèce sortira de la nôtre. Il pourrait y avoir autant d'espèces qu'il y aura d'opportunités invitant à remodeler substantiellement la nature humaine dans des environnements nouveaux ou des raisons de refuser de s'y engager. La technophilie postmoderne et évolutionniste rompt avec le dogme moderne de la RDTS, de la recherche et développement technoscientifique, une et universelle motrice du progrès de l'humanité. Cette conception universaliste et unitariste ne serait que l'expression d'une mythologie particulière propre à la vision du monde et à l'histoire occidentale. Au lieu de penser la technoscience et les croyances qui s'y associent comme supra-historiques, il conviendrait donc de les comprendre comme enracinées dans une tradition et une communauté déterminée, quelle que soit la domination exercée par cette communauté sur les autres, car cette domination n'est rien de plus qu'un accident historique qu'aucun droit transcendantal ne vient fonder ou légitimer. Cette recontextualisation des technosciences comporte aussi l'idée de la diversification. dans des communautés et des traditions culturelles différentes, on peut concevoir des RDTS, des recherches et développements technoscientifiques multiples, sélectifs, suivant des imaginaires, des symbolisations, des valeurs et des buts divers. L'humanité postmoderne future s'ouvre sur un buissonnement évolutif combinant librement technique et symbole. Cette diversification technosymbolique renvoie ultimement, suivant Engelhardt, aux individus en tant que personnes. Cette notion de personne est une fiction philosophique qui joue un rôle très important chez Engelhardt. Il définit la personne par son autonomie, sa capacité de choisir librement. Ce sont donc des personnes qui décident de s'associer en communauté dans la mesure où elles partagent des valeurs et des finalités semblables. La personne n'est pas à caractériser par une certaine forme physique, celle par exemple du corps, la forme anthropomorphique propre aux membres de l'espèce humaine. C'est pourquoi les personnes et les collectivités librement constituées peuvent parfaitement objectiver et modifier les corps humains des individus qui consentent à de telles opérations ou les réclament. Jean-François Lyotard, le philosophe français de la postmodernité le plus connu, évoque aussi la saisie opératoire du corps par la technoscience. Mais son appréciation est critique. Il tente à dénoncer cette objectivation technoscientifique comme l'aboutissement du projet de maîtrise de la modernité qui s'y défait. Je cite Lyotard, « La technoscience accomplit le projet moderne. L'homme se rend maître et possesseur de la nature. » Mais en même temps, elle le déstabilise profondément, car sous le nom de la nature, il faut compter aussi tous les constituants du sujet humain, son système nerveux, son code génétique, son computer cortical, ses capteurs visuels, auditifs, ses systèmes de communication, notamment linguistiques, et ses organisations de vie en groupe. Finalement, sa science, sa technoscience, fait-elle aussi partie de la nature ? L'intérêt de cette citation réside aussi dans le fait qu'elle évoque non seulement l'objectivation du corps, y compris le cerveau et le génome, mais encore l'objectivation technoscientifique des capacités relationnelles des sujets, capacités constitutives de l'intersubjectivité et de la subjectivité, à savoir le langage, la socialité. Cette description met présomptivement fin à l'opposition entre culture symbolique, langage pensé d'une part, technique et nature physique ou matérielle, d'autre part. Tout, y compris l'ensemble de ce qui relevait traditionnellement de l'esprit, de l'idéalité, du transcendantal, de l'immatériel, etc., est naturalisé, matérialisé et technoscientifiquement opérable. La totalité des couples conceptuels qui structurent la tradition philosophique, modernité comprise, deviennent dès lors inappropriées. Si l'on suit toutefois cette ligne de pensée radicalement, il n'est plus guère possible de préserver l'idée d'un sujet autonome, sauf comme une fiction héritée d'une certaine tradition, la modernité précisément, que cette fiction même risque de conduire de plus en plus loin des croyances, des valeurs et des idéaux qui animaient la tradition dont elle est issue et qui fondaient la notion de personne en tant que sujet autonome. La citation d'Engelhardt que je vous ai lue situe la postmodernité technosymbolique sur fond de l'horizon spatio-temporel le plus large, un horizon évolutionniste, ouvert sur l'espace et le temps cosmique, mettant la nature terrestre et l'histoire humaine en perspective. Cette perspective est celle du très long terme et de l'immensité, dont la philosophie pratique est encore très loin d'avoir assimilé les conséquences et les exigences pour l'agir et le faire humain. Elle souligne la précarité et la contingence des formes de vie, ainsi que leur caractère mutationnel et évolutif, l'imprévisibilité et la multiplicité des futurs possibles, le rôle des hasards destructeurs et créateurs, occasion de cristallisation cosmique nouvelle et d'histoire inouïe. Elle souligne aussi la créativité humaine, le rôle des humains dans l'invention des futurs. Elle invite à concevoir au pluriel la transcendance de l'espèce humaine techno-symboliquement. Je voudrais conclure par quelques brèves réflexions un peu plus personnelles. Je me sens plus proche des idées de la postmodernité technosymbolique que des autres positions évoquées. Ces idées, en effet, ouvrent l'avenir infiniment, multiplient l'espérance, entretiennent l'esprit d'aventure, de création, d'exploration, d'évolution et d'émerveillement. En elles, la vie ne cesse de s'amplifier. Hors d'elles, seul un futur d'anéantissement physique à moyen ou long terme se profile encore pour l'espèce humaine. Avec elles, ce risque d'annihilation cosmique pure et simple n'est pas écarté, mais il cesse d'être le destin fatal sur lequel débouchent aujourd'hui, concrètement, les imaginaires métaphysiques et théologiques traditionnels qui ne reconnaissent à l'humanité qu'une transcendance symbolique. Mais la postmodernité doit être réellement postmoderne, c'est-à-dire se construire sur la base assurée d'une traduction dans les faits de l'essentiel des idéaux modernes dont l'humanité reste aujourd'hui encore bien éloignée. La postmodernité introduit en outre un souci de mémoire et de préservation des passés dont nous héritons, passés des formes de vie ou biodiversité, passés des cultures symboliques ou logodiversité, passés des techniques aussi ou technodiversité. La modernité n'entretenait pas un tel souci. Elle visait au contraire davantage la table rase du passé historique en vue d'une construction rationnelle de l'avenir. Le postmoderne se place sous le signe de la richesse du divers contre la monomanie rationnelle de la modernité. Cette richesse n'est pas simplement celle des possibles futurs. Elle doit comprendre les héritages du passé. La postmodernité doit encore viser la diminution de la souffrance, mais pas seulement celle des humains, comme le voulait déjà la modernité, celle aussi de tous les vivants. Il faut que la souffrance cesse d'être l'un des principaux laboratoires du futur, de la transcendance et de la création. Mais ce que la postmodernité ne peut pas être, c'est un espace chaotique d'entrechoquement de forces où le plus fort finirait par dominer, seul, en étouffant ou en détruisant toutes les altérités qui cherchent à s'affirmer pour elles-mêmes. Un monde de cette sorte ne s'enrichit pas, il s'appauvrit, au contraire. C'est ce risque constant de la violence misérable que la référence continuée aux idéaux rationnels de la modernité doit sans cesse rappeler aux individus et aux sociétés de l'univers postmoderne. Mais cette référence elle-même ne peut jamais devenir la légitimation de la domination exclusive d'une raison déterminée qu'une histoire aurait placée en position de force. Nous vivons dans une civilisation technoscientifique et multiculturelle. L'accompagnement symbolique et la régulation éthico-juridique de cette civilisation soulèvent deux problèmes de fond. Le premier est celui posé par l'incessante évolution des technosciences, elles-mêmes motrices de cette civilisation. Leur dynamisme entraîne que les régulations symboliques deviennent quasi instantanément obsolètes, aussitôt qu'élaborées et formulées. Le second problème est celui du multiculturalisme et du multitraditionnalisme eux-mêmes. Comment concevoir des règles qui seraient suffisamment générales non seulement pour ne pas être remises en question à tout moment par la recherche et le développement technoscientifique, mais qui en outre ne se révéleraient pas étouffantes par rapport à la diversité culturelle et morale d'autre part. Comment enfin articuler à ce cadre de règles très générales de nombreuses règles particulières compatibles avec la diversité des cultures et sans cesse revues en fonction de l'évolution technoscientifique ainsi qu'en fonction de l'évolution plus lente des mentalités. Je vous remercie.
Je remercie Monsieur Autois. Nous allons passer aux questions. Monsieur en bas, là.
On n'a pas souvent l'occasion de voler aussi haut dans la stratosphère philosophique. Mais ça me permet de faire peut-être une rupture en posant une question beaucoup plus terre-à-terre que celle que vous avez évoquée. Les relations entre la technique et la politique, vous l'avez évoqué au départ, et puis vous l'avez réévoqué tout à fait à la fin, mais ça, c'est une préoccupation très terre-à-terre, je dirais très pratique de chacun d'entre nous. Est-ce que les politiques sont susceptibles d'avoir ou non une influence sur l'évolution de la technique? On constate le plus souvent qu'ils freinent, c'est le cas le plus fréquent. Je ne citerai pas quel colonel a décidé que les antennes de télévision seraient interdites dans son pays, par exemple. Je ne citerai pas quel chef de gouvernement ou quel ministère ont décidé que les détecteurs de radar seraient interdits dans les voitures, que les pilules dans d'autres pays ne seraient pas distribuées librement, etc., etc. Bon, on voit beaucoup d'exemples dans lesquels les politiques freinent. Est-ce que vous avez une position moins pessimiste? Est-ce que vous voyez des possibilités futures moins pessimistes que celles-là?
Je n'ai pas une vision aussi pessimiste que celle-là, non. Je n'ai pas le sentiment, personnellement, que les politiques freinent systématiquement. Je pense que le politique a fortement encouragé, par exemple, le développement de la génétique, le développement des recherches sur le cancer, l'astrophysique, la conquête de l'espace. Tout cela a été, je crois, fortement soutenu par des gouvernements. L'Internet même, je n'ai pas cette impression que systématiquement, en tout cas, le politique freine ou soit technophobe. Je pense que le politique se trouve dans une situation extrêmement difficile, qui est une situation d'interface multiple entre des intérêts extrêmement divers et puissants, et aussi dans une situation d'interface par rapport à la perception du public, par rapport à l'opinion publique. Et il faut qu'ils tiennent compte également de cette perception du public, de cette perception que le public a des sciences et des techniques, et de certaines techniques en particulier. On songe par exemple à la génétique, et notamment aux organismes génétiquement modifiés. Je pense que la position du politique n'est pas du tout une position aisée, puisque c'est une position qui doit être une position de régulation aussi. Et c'est précisément cette position de régulation, enfin cette entreprise de régulation au niveau symbolique, qui est ce qui comprend le niveau juridique, éthique, culturel, éducationnel, etc., et qui est le point complexe et difficile par excellence. Pour le reste, si vous voulez qu'on entre dans des détails, mais je crois que ce n'est pas le lieu, il faudrait par exemple parler d'institutions nouvelles comme les comités éthiques, etc., ou le politique, le scientifique, le public, etc., les philosophes, les biologistes, les médecins sont présents, mais qui illustrera assez bien cette problématique. Enfin, je pense qu'il y aura d'autres questions aussi. Je ne vais pas répondre trop longuement aux questions. Je crois que...
J'ai un micro, là, ici, sur votre gauche.
Ah. Moi, je distingue mal, hein, parce que...
Sur votre gauche, là. Ici. À la gauche, à votre gauche. Ici.
Ah, ben voilà. Ici, ah, vous êtes là. Oui, je vous vois. Oui. Je vous entrevois. Dans un brouillard de lumière.
Pardon. Dans votre conférence, il y a un nom que vous n'avez pas cité, c'est André Leroy-Gourand, le préhistorien, qui a pourtant montré la coévolution entre la technique et l'homme. Je voudrais savoir ce que vous en pensez, ce que vous avez à dire là-dessus. Et deuxièmement, j'ai une autre question. Le journaliste et disciple de Jacques Ellul, Jean-Claude Guillebeau, appelle à refonder le monde. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah. Oui, mais sur la deuxième question, je n'ai pas d'informations. Refonder le monde, c'est ça? Là, je ne pourrais pas répondre. C'est une question, à mon avis, beaucoup trop générale, surtout si je n'ai pas lu le texte dont il s'agit. En ce qui concerne Leroy Gourand, je n'en ai pas parlé, non pas du tout par indifférence ou ignorance ou désintérêt. Je parle assez abondamment je cite assez fréquemment Leroy Gourand dans Le Signe et la Technique, par exemple. Donc, j'ai pris acte de l'apport de ses recherches, puisque je me sens souvent assez proche de lui, mais tout en étant bien sûr très différent. ne fût-ce que du point de vue professionnel et disciplinaire, mais il a très bien mis en lumière aussi ces deux aspects, le symbolique et le technique, n'est-ce pas, le geste et la parole, la culture et la matière. Donc, et il a très fortement souligné aussi l'importance de l'évolution technique, et il a également fortement regretté, dans certains de ses ouvrages, le fait que la culture symbolique, enfin disons que le primat du symbolique, est à ce point opprimé, en quelque sorte, l'importance du technique, et par conséquent, au plan philosophique, je me sens assez proche de le roi Gouran.
Je vais essayer de parler sans micro, moi aussi,
chacun
mon tour.
Je crois qu'on ne peut pas.
Oui. Excusez-moi.
Il faut un intermédiaire technique.
J'aurais voulu vous demander ce que vous pouvez connaître éventuellement des mouvements de pensée qui existeraient dans des cultures non occidentales, notamment dans des pays qui essayent de revendiquer une culture islamique et qui en même temps veulent utiliser la technoscience issue des civilisations occidentales. Est-ce qu'il existe des mouvements de réflexion sur d'éventuelles contradictions ou la manière d'essayer de justifier une sélectivité dans le choix des technosciences, le rejet de certaines, l'acceptation d'autres?
Oui, merci. Mais disons que mon expérience dans ce domaine est relativement limitée. J'ai quand même une certaine expérience précisément en ce qui concerne le monde islamique et le monde musulman. Par exemple, j'ai notamment participé à des réunions de bioéthique en Tunisie, n'est-ce pas, que la Tunisie a d'ailleurs mis sur pied un comité national d'éthique ou de bioéthique, si vous voulez. Et on rencontre là des musulmans convaincus qui sont extrêmement ouverts et soucieux, comment dire, de faire ce travail herméneutique de tissage, en quelque sorte, à partir de leurs textes, à partir de leurs traditions, de façon à montrer, et ils le font alors très concrètement à partir du Coran, de montrer qu'il n'y a pas de contradiction entre cette tradition et certaines avancées à propos desquelles des penseurs même agnostiques et laïcs auraient peut-être de plus vives réserves, par exemple le clonage ou la transgénèse, etc. Eh bien, je pourrais vous montrer des textes d'historiens et de philosophes musulmans qui estiment que leur tradition n'est pas du tout en opposition et que donc il est possible tout à fait et qu'il faut même essayer de la symboliser et de symboliser les technosciences donc aussi à partir de cette tradition. Vous savez, tout ça est ouvert et très expérimental. Je ne sais pas vous répondre précisément à cette question, qu'est-ce que ça veut dire une diversification technosymbolique ou technoscientifique et symbolique de l'humanité. Je pense que cette question se pose, que cela se cherche en quelque sorte, cela est revendiqué aussi, mais dans quelle mesure cela est possible, et cela n'est sans doute possible que sur la base de certains standards tout de même, enfin ou alors c'est l'éclatement, bien entendu, hein, d'une certaine universalité, de certains points qui resteraient commun, de certaines règles qui seraient communes, de certaines structures qui seraient communes. C'est pour ça que j'ai insisté en concluant aussi sur le fait que la postmodernité doit bien être postmoderne. Et il reste encore beaucoup de travail au niveau de la modernité, au niveau des idéaux, des valeurs de la modernité qui sont loin d'être intégrées, réalisées par l'humanité contemporaine au plan planétaire.
Oui, allô ? Je peux parler ? Oui. Je voudrais savoir pourquoi la technique ne prend pas spontanément la voie, par exemple, de refleurir le Sahara, enfin, c'est un peu de l'idéal, mais ou de soigner, de mettre tout l'argent dont on dispose pour soigner le cancer ou d'autres maladies. Pourquoi est-ce que la technique ne prend pas, ou de soulager la souffrance, comme vous l'avez dit, pourquoi la technique prend toujours la voie de l'efficacité maximum, c'est-à-dire d'avoir toujours un résultat souvent matériel, maximum pour une dépense d'énergie ou d'argent minimale.
Je crois encore une fois que les choses ne sont pas en noir et blanc. Certainement, la technique ne prend pas systématiquement l'orientation de faire fleurir ou verdir le Sahara, mais je pense aussi que les sciences et les techniques ont fait beaucoup pour diminuer la souffrance, pour diminuer la misère, pour améliorer la santé, n'est-ce pas, la longévité dans les civilisations technoscientifiquement développées. Je pense que cette longévité est un signe suffisant. Maintenant, pourquoi est-ce que aussi assez systématiquement les possibilités technoscientifiques sont détournées? Ça, c'est parce qu'il y a aussi des intérêts particuliers qui, en grande partie, gouvernent un certain nombre de choix et d'investissements technoscientifiques. Ça, c'est, je pense que on ne peut pas dire, je ne suis pas très d'accord avec la formulation de la question, ce n'est pas la technique qui prend cette voie ou cette voie-là. Je ne suis pas éluléen dans ce sens. Je pense qu'il y a des, comment dire, des collectifs, des individus, des groupes d'intérêt, des groupes d'intérêt extrêmement puissants, bien entendu, qui jouent un rôle très important dans l'orientation, dans la politique scientifique, dans la politique technoscientifique, dans l'utilisation des ressources, dans l'orientation des recherches. Mais il ne faut ni angéliser, ni diaboliser la recherche et le développement technoscientifique. Ce qui est extraordinaire, c'est que, enfin, de mon point de vue, c'est que probablement, effectivement, les technosciences pourront développer ces capacités de, comme vous dites un peu poétiquement, enfin c'est une métaphore générale, un peu symbolique, de faire reverdir, de faire fleurir le Sahara. Et bon, alors, on en revient évidemment à des considérations extrêmement simples, mais élémentaires, mais toujours vraies, à savoir que il faut que les individus qui ont le pouvoir d'orienter les choses, d'utiliser la technique, l'utilisent dans le sens qui est celui que vous évoquez, pas dans l'autre. Mais ça, c'est une question qui est la question de l'histoire de l'humanité, qui est aussi la question de la nature humaine. Ce n'est pas seulement la question de la technique. Cela.
Bon. Oui, bonsoir oui. Monsieur. J'aurais aimé savoir ce que vous pensez de cette idée que, en fait, la technique au service de l'homme, c'est pas, d'après moi, c'est pas un mythe. La preuve en est, c'est que les chrétiens s'en servent de cette idée, puisque elle permet la technique au sens, la technoscience au sens de la chrétienté, permet d'améliorer la vie. Si on considère que la vie, le service de la vie, si on considère que la technique et la technoscience sont au service de la vie, ce qui, à mon avis, n'est pas un mythe.
Je n'ai pas, j'ai pas de commentaire particulier parce que je suis assez d'accord avec vous, à savoir qu'effectivement, la technique et la technoscience peuvent parfaitement être utilisé dans le sens que vous dites, et c'est un petit peu ce que j'ai aussi essayé de faire passer dans la conclusion, bien entendu. Simondon, si oui, certainement, et même certains penseurs postmodernes aussi, à condition de ne pas, disons, avoir une vue trop apocalyptique des technosciences et du multiculturalisme.
Excusez-moi. Oui, est-ce que vous ne pensez pas que les politiques vont être de plus en plus dépassées par le développement des sciences et qu'en fait, justement, les scientifiques devraient, au travers de comités d'éthique, etc., se faire valoir de plus en plus? Je veux dire par là qu'ils n'auraient peut-être pas le moyen législatif de... Ils devraient laisser le législatif légiféré, mais de leur côté, avoir de plus en plus accès à dire leurs opinions, c'est-à-dire en fait, même peut-être créer une assemblée qui, en dehors du politique, mettrait l'accent sur les sujets et les questions les plus importantes et proposerait justement aux politiques des sujets à traiter en priorité.
Oui, je vous remercie, mais je pense que, non pas que je veuille les défendre systématiquement, mais je pense que les politiques font effectivement ce qu'ils peuvent et ils prennent conseil, n'est-ce pas ? Ils sont entourés d'experts. Il y a beaucoup plus de commissions, d'auditions publiques aussi, de comités, de nouvelles institutions qu'on ne le pense généralement. Si on ne prend que l'exemple, cet exemple qui s'est multiplié au cours de ces dernières années, qui est celui des comités d'éthique ou de bioéthique, par exemple, où effectivement interagissent, discutent des philosophes, des scientifiques, des théologiens, des décideurs, des parlementaires, des biologistes, etc., des juristes. Je pense par exemple au Conseil d'éthique auprès de la Commission européenne, n'est-ce pas, qui travaille ainsi pour, comme vous dites, fournir un avis qui travaille aussi avec des auditions publiques, c'est-à-dire que ce type de comité organise des journées où les différents groupes d'intérêt, associations de patients, défenseurs des animaux, par exemple industriels, ordre des médecins, etc. Donc les différents groupes d'intérêt pour une question sont représentés et disent leur façon de voir les choses. Ça ressemble un petit peu, évidemment ce n'est pas du tout le grand dialogue, le grand forum auquel participe toute l'humanité, mais enfin ça ce n'est pas praticable, mais c'est quand même analogiquement quelque chose qui essaye de, enfin ce sont des institutions, ce sont des procédures de discussion qui essayent de tenir compte d'un maximum d'informations et de, comment dire, d'éclairage et d'intérêts souvent contradictoires, et c'est à partir de là qu'on essaye de former un avis. Je le dis un petit peu aussi par expérience au niveau du Comité national de bioéthique en Belgique, au niveau du Conseil européen d'éthique. Mais c'est très complexe et c'est clair aussi que le citoyen, en général, n'a pas le sentiment d'y être associé. Il n'y est sans doute pas suffisamment associé. Mais c'est très compliqué parce qu'il y a tout un effort d'acculturation, d'éducation, de vigilance, d'information continue. C'est un petit peu d'ailleurs, ça justifie d'ailleurs un petit peu le type d'entreprise dans lequel nous nous trouvons actuellement. Cette université de tous les savoirs, ça participe de cet effort constant d'acculturation. Puisqu'on est dans une société qui change tout le temps, qui est complexe, qui est, comme je le disais, une civilisation technoscientifique et multiculturelle, c'est très, très complexe, cette réalité-là est très, très instable ou très métastable, et c'est très fatigant. C'est très fatigant parce qu'il n'y a pas, il n'y a plus ce code, n'est-ce pas, ou cette conception bien structurée et fondamentale sur laquelle on pourrait se reposer. C'est ça la fin de la métaphysique ou de l'ontologie, c'est ça aussi la réalité postmoderne, donc une réalité de processus, et il faut essayer, dans la mesure du possible, il faut d'abord en prendre conscience de cette réalité-là, et puis essayer de la gérer en tenant compte de sa complexité.
Est-ce que vous ne pensez pas que d'une part il faut bannir le mot technoscience, en ce sens que la science, tout au moins la science fondamentale, est très éloignée de la technique? Bien souvent, dans le passé, on a vu des découvertes mineures, en quelque sorte. Si je prends même la génétique, puisque au début, on n'a pas vu du tout son intérêt, eh bien, il y a une différence énorme entre la science fondamentale, qui découvre des phénomènes qui, au départ, ne sont pas, on en voit mal les applications, et d'autre part, la technique, qui est au contraire une application, qui consiste dans des applications de cette science fondamentale. C'est ma première question. Et ma deuxième question, est-ce que vous ne pensez pas que finalement les sciences, tout au moins les sciences, ce qu'on appelle les sciences dures, les sciences non humaines, ont apporté ont pour base l'objectivité, et elles sont adoptées par n'importe quelle civilisation ou n'importe quelle culture. On voit que par exemple la Chine, la Russie, etc., ont volontiers adopté des découvertes de sciences plus occidentales. Donc il faut prendre ce développement scientifique finalement comme nous donnant des moyens considérables, mais pour ce qui est du reste, et d'ailleurs vous l'avez souligné, il me semble, à un moment, pour ce qui est du reste, l'homme n'a guère changé depuis... je dirais même que les bases humaines sont assez animales, c'est-à-dire qu'il y a un système de valeurs, il y a des côtés pratiques qui sont mis en valeur, il y a des groupes d'intérêts, c'est pas nouveau tout ça. Ça a toujours existé, et ces groupes d'intérêts se servent d'armes différentes, bien entendu, puisque les armes sont nouvelles. Mais fondamentalement, je n'ai pas l'impression que ce développement considérable des moyens humains mis au service de certains groupes d'intérêts, ou de particuliers d'ailleurs, a pu changer le fondement même de ce qu'est l'homme.
Bien. Ce sont deux questions qui appelleraient des approfondissements assez longs. En ce qui concerne la première, personnellement, j'utilise le terme technoscience parce que je crois qu'il correspond bien à la réalité de la science moderne. Si je l'oppose à la science ancienne, mais je ne vais pas développer cela longuement, je crois qu'on n'en a pas le temps, c'est-à-dire à une science beaucoup plus, à un savoir, le savoir philosophique, discursif, théorique ou théorétique. Avec le début de la science moderne, on entre dans une science, dans un savoir causal qui est pratiquement déjà technique parce que dès qu'on connaît la cause d'un effet, eh bien on peut intervenir, n'est-ce pas ? On peut intervenir, modifier la cause et donc supprimer ou modifier ou susciter l'effet. Dans un contexte de science finale, qui travaille, qui fonctionne avec des causes finales, cela n'est pas ainsi. Donc, dès le début de la science moderne, début qui est associé au développement de la pensée opératoire calculatrice mathématique aussi, n'est-ce pas, qui est associé à un certain nombre d'inventions telles que la lunette ou le microscope, dès le début de la science moderne, il me semble que la science progressera de plus en plus avec des médiations techniques et même au niveau fondamental. Parce que qu'il s'agisse de physique fondamentale, qu'il s'agisse de recherches en biologie fondamentale, ces recherches ont un besoin constant de techniques et d'inventions techniques nouvelles et elles combinent des techniques pour pouvoir progresser. Donc, personnellement, je suis partisan de cette notion de technoscience qui me semble, mais j'essaye vraiment de condenser ici ce que je veux dire, n'est-ce pas, qui me semble bien souligner la spécificité de la science contemporaine par rapport à la science ancienne dès le tournant de la modernité. Mais ça devrait être discuté plus longuement. Alors, en ce qui concerne ce que vous dites sur le peu d'évolution de la nature humaine, si vous voulez, oui, sans doute. Je ne sais pas quelle est la conclusion qu'il faut en tirer. Tout simplement, je n'ai pas très bien compris pourquoi vous disiez cela. En ce qui concerne l'objectivité des sciences dures, encore une fois, c'est un point délicat, c'est un point très, très discuté, cette notion d'objectivité. Et ça demanderait des développements très longs. Ce que je dirais, c'est que certainement, je considère qu'on ne fait pas de la science, que vous dites dure, avec de la rhétorique, avec des discussions, des débats, et qu'on ne termine pas une discussion scientifique, on ne tranche pas une discussion scientifique de la même manière qu'on tranche une discussion politique ou esthétique ou éthique. Parce qu'il est clair que dans certaines orientations de l'épistémologie de la philosophie contemporaine, il y a cette tendance, notamment dans certains postmodernismes, n'est-ce pas, de considérer que il n'y a pas d'objectivité, qu'il n'y a que de l'intersubjectivité et que par conséquent, finalement, les vérités scientifiques ne sont que l'expression de l'accord, de l'accord entre un certain nombre de scientifiques au sein de la communauté scientifique. Alors, certainement, moi, je ne vais pas dans ce sens-là, mais je manierai cependant la notion d'objectivité, de vérité, etc., d'universalité, avec beaucoup de prudence, sans les lester de tout leur passé métaphysique ou positiviste même, parce que je pense que les choses sont beaucoup plus compliquées que cela. Je pense effectivement que les expérimentations scientifiques et donc les résultats scientifiques, ce sont des constructions, c'est dans un laboratoire, c'est avec l'aide de toute une série de techniques extrêmement sophistiquées que ces résultats sont obtenus, ce qui va dans le sens d'ailleurs de cette notion de technoscience de mon point de vue, et que par conséquent, il faut bien voir, si objectif est synonyme de descriptif, de neutre, de proche, de reflet de la nature, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que cela. Je pense que la technoscience, enfin la science contemporaine, produit ces objets, invente ces objets, plus qu'elle ne les découvre, qu'il s'agisse d'animaux transgéniques, qu'il s'agisse de certaines particules de la physique des particules, qu'il s'agisse de... d'informatique, la technoscience produit, n'est-ce pas, crée ces objets, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une objectivité, mais elle ne les découvre pas. Et cela est tellement vrai qu'il y a tout un débat, qui n'est pas fini, mais enfin qui a tout de même fort évolué ces toutes dernières années, tout un débat en ce qui concerne le brevetage des inventions biotechnologiques, n'est-ce pas, brevet des séquences géniques notamment, et le débat tournait justement autour de cela. Est-ce que l'objet qui est breveté est découvert ou inventé? Et c'est bien, ce débat est toujours en cours, hein, c'est un débat épistémologique très intéressant d'ailleurs, n'est-ce pas, est-ce qu'une séquence génique qui a été, évidemment, via des médiations techniques importantes, cernée, clonée, purifiée, etc., dont on connaît les fonctions, est-ce qu'on peut la breveter? Certains disent oui, ça n'existe pas dans la nature, telle qu'elle. C'est un objet artificiel. Mais d'autres disent que non, non, puisque cette séquence génique, elle existe bien dans les cellules, n'est-ce pas, dans les cellules des êtres vivants. Mais je pense que cela signifie aussi, notamment, que cette distinction classique, hein, traditionnelle, ce couple découverte-invention, ne fonctionne plus très bien dans le monde contemporain, où nous sommes. C'est un des couples, à mon avis, qui est devenu très difficile de manier encore aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus ces clivages très nets. Comme... Ben, il y en a d'autres, mais je m'arrête là.
Je voudrais intervenir, excusez-moi, mon tour, sur un point. Vous dites, vous êtes optimiste, je crois, au progrès grâce à la technoscience. Cependant, moi, je constate que dans le contexte social et sociologique actuel, c'est beaucoup plus souvent un facteur d'aliénation qu'un facteur de libération. Je pense au temps moderne de Chaplin. La situation, par exemple, l'aliénation au travail, précisément parce que l'homme devient totalement soumis à une machine, à une technique, qu'il ne gère pas, qu'il ne contrôle pas, puisqu'il n'en est pas propriétaire. Et plus ça va, plus, dans un grand nombre de domaines, la technique devient un facteur d'aliénation. Au niveau de l'informatique, c'est ce qui se passe, puisqu'on sait que les conditions de travail dans un certain nombre de bureaux devant l'écran de l'ordinateur font que, finalement, on travaille beaucoup devant un écran extrêmement usant. Et pour toutes ces raisons, je pense qu'il est difficile de rester à un niveau purement... éthéré, hein, sans prendre en compte effectivement ces facteurs sociaux. Et je crois que là-dessus, je rejoins un peu ce que vous disiez à propos de l'école de Francfort. Je pense qu'ils avaient raison de montrer que dans le contexte sociologique actuel, la technique a essentiellement pour visée bien la satisfaction d'intérêts financiers, d'intérêts égoïstes. Malheureusement, c'est comme ça. Quant à la nature humaine, eh bien, c'est pas ça. Bon, il faut parler plutôt de nature sociale. L'homme a une nature sociale et bon, je crois moi. Enfin, par ailleurs, je crois beaucoup au progrès technique et j'en suis tout à fait partisan. Mais je voulais intervenir sur cet aspect des choses.
C'est la dernière question. Hein. Je vous préviens parce qu'on est déjà très en retard.
Mais je pense que si on réinterprète la thèse d'Élu, l'autonomie de la technique, comme voulant insister sur une série d'abus, de dysfonctionnements pernicieux, je pense que c'est tout à fait acceptable. Il est clair que Bon, les pollutions sont en partie certainement occasionnées par le développement industriel. Il est clair que le développement de l'informatique présente des risques pour la protection de la vie privée. Il est clair que l'organisation automatisée du travail entraîne une certaine robotisation, effectivement, des travailleurs, etc. Je pense qu'il ne faut pas, nier ces aspects-là. Mais je pense que ce sont des questions d'organisation et de société, comme vous le dites vous-même, d'ailleurs. Et en ce qui concerne l'école de Francfort, je ne crois pas qu'il faille dire que l'école de Francfort considère que... enfin, c'est peut-être pas ce que vous avez dit, mais je l'ai peut-être mal compris. J'ai eu l'impression que vous disiez que l'école de Francfort a une conception pessimiste de la technique. Je ne le pense pas. Je pense que... enfin, en tout cas, des gens comme Apple Habermas estiment simplement que... Simplement, dans ce simplement n'est pas simple, bien entendu, qu'il faut une réappropriation de la technique par la société. Mais c'est vrai, mais c'est une très vaste entreprise, hein, c'est peut-être une entreprise infinie. C'est d'ailleurs un idéal, mais oui, je ne sais pas, il y avait encore une autre question qui voulait...
Non, c'est terminé, je suis vraiment désolé, il faut rendre...
Terminé.
Il faut libérer les...
Merci.